France Musique.
Mardi 30 novembre, de la pluie dans la matinée près de la Manche, quelques flocons près des frontières du Nord-Est. Partout ailleurs, c'est plus calme que ces derniers jours, avec un certain radoucissement, temps sec, mais nébulosité encore bien dense. Les températures cet après-midi, 4 à 8 degrés, ça grimpe jusqu'à 8 à 12 dans le Nord-Ouest et les régions de la Méditerranée. Il est 7h30. L'heure d'un nouveau point sur l'actualité avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Mais bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Une journée pour rien en Guadeloupe. Arrivé dimanche soir, le ministre des Outre-mer a écourté sa réunion avec les syndicalistes et les élus locaux. Moins de 10 minutes hier, Sébastien Lecornu voulait que ses interlocuteurs condamnent avant toute chose les violences de ces derniers jours, ce qui n'a pas été le cas. À Pointe-à-Pitre, c'est un reportage de notre envoyé spécial Yann Gallic.
À quoi aura servi cette visite éclair de Sébastien Lecornu ? À rien, si ce n'est remettre de l'huile sur le feu, estime Jocelyn Sapotille, le président de l'Association des maires de Guadeloupe, fait partie des élus qui ont finalement refusé de rencontrer le ministre des Outre-mer.
On a senti qu'il y avait un message qui pouvait aussi laisser entendre que, grosso modo, c'est le problème des élus locaux. Ce n'est pas pour nous une façon d'apaiser. Donc quand on laisse entendre que c'est le problème des élus locaux, ben, ceux qui sont sur le terrain vont dire on n'est pas sorti du conflit et ça va encore attiser le conflit.
Mais Sébastien Lecornu assume pleinement sa stratégie. Le ministre rappelle qu'ici, la plupart des revendications sont de la compétence des collectivités locales.
Ce qui est compliqué, c'est de se faire engueuler pour des choses dont l'État n'a jamais été responsable. Il faut remettre aussi un peu de justice dans tout ça. Il faut que le citoyen contribuable, usager du service public, il soit bien informé aussi de qui fait quoi. Alors là, je vois bien aussi certains qui vont commencer à s'offusquer. Oui, le ministre est en train de se défausser sur les élus. Mais je dis non. Je pense qu'il faut que chacun soit à sa place dans ce territoire.
Si l'objectif était de trouver une issue à la crise actuelle, cette visite ministérielle a tout l'air d'un échec. Mais s'il s'agissait de mettre les élus guadeloupéens face à leurs responsabilités, alors Sébastien Lecornu aura finalement réussi à faire passer son message.
Dans la soirée, Sébastien Lecornu a atterri en Martinique. Il doit rencontrer aujourd'hui l'intersyndicale et des élus locaux. Le ministre espère conclure avec eux un accord de méthode. Les problèmes du quotidien comme la vie chère, la pêche ou encore les transports seront au centre des discussions. La Barbade vole désormais de ses propres ailes. Cette petite île des Caraïbes devient officiellement une république et quitte du même coup le giron de la reine d'Angleterre. La présidente élue était jusqu'à présent la gouverneure générale du pays devenu indépendant du Royaume-Uni en 1966. Le prince Charles a été invité à participer aux cérémonies officielles. Aujourd'hui, la République de la Barbade restera membre du Commonwealth. C'est ce qu'a indiqué hier Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Le Chili suspend à son tour l'ouverture de ses frontières terrestres. Il interdit également aux voyageurs en provenance d'Afrique australe d'entrer dans le pays. Le gouvernement veut se protéger du variant Omicron contre lequel les membres du G7 appellent à une action urgente à l'échelle internationale aux États-Unis. Joe Biden se dit préoccupé, mais il estime qu'il n'y a pas pour l'instant de raison de paniquer. Éric Zemmour devrait annoncer aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle. L'entourage du polémiste d'extrême droite évoque la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux aux alentours de midi avant un passage ce soir dans le journal de 20h de TF1. Un premier meeting de campagne est prévu dimanche prochain au Zénith de Paris. La CGT solidaire et des groupes de militants antifascistes manifesteront sur place leur opposition. 46 ans après sa mort, Joséphine Baker va faire son entrée au Panthéon. Cet hommage national consacrera sa vie d'artiste, de music-hall, de résistante et de militante antiraciste. Après Simone Veil en 2018, Joséphine Baker sera donc la sixième femme à rejoindre ce temple de la République qui honore des personnages illustres. 7h34 sur France Musique. Après votre illustre revue de presse, Jean-Baptiste Urbain, Aliette Delalleu évoquera à 7h50 le travail radiophonique de la compositrice Claude Arrieux.
L'illustre journal, c'était facile, d'Olivier Denré revient à 8h. À tout à l'heure. Thank you.
Thank you.
Et cette fois, c'est vraiment la fin de cette symphonie concertante pour flûte traversière et violon, le rondo, signé Raïcha, avec Alexis Kosenko à la flûte, Shushan Cyranossi en violon, et l'ensemble Gli Angeli de Genève, dirigé par Stephen McLeod, ensemble suisse, qui est à l'affiche du concert de 20h ce soir sur France Musique pour un programme beaucoup plus sacré, cette fois que ce que l'on vient d'écouter, trois Stabat Mater, trois époques différentes, Palestrina, Pergolèse et Arvo Pärt, concert donné au dernier festival d'Ambronay cette année, concert en compagnie de Clément Rochefort à 20h sur France Musique, où il est 7h42 et où il est grand temps de faire un tour de l'actualité musicale.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et d'abord, bien sûr, Joséphine Baker à la une de plusieurs journaux ce matin. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur le déroulé de la cérémonie d'entrée au Panthéon de l'artiste cet après-midi, diffusée sur plusieurs chaînes de télévision, notamment à 17h30 précisément. Raconte le journal, le cercueil va remonter solennellement la rue Soufflot à Paris, porté par 6 aviateurs de l'armée de l'air, dont la chanteuse et résistante fut membre. Il s'agira d'un cénotaphe, un tombeau vide où 4 poignées de terre seront posées symboliquement, car conformément au souhait de cette famille, son corps reste enterré à Monaco au moment de l'ouverture des grandes portes du monument. La composition musicale de Pascal Dussapin embrassera l'espace comme un poumon vocal, raconte le Parisien. La Croix, elle, complète en précisant que Joséphine Baker au Panthéon aura pour voisin Jean Moulin, André Malraux et son chat sculpté et Simone Veil. En attendant les suivantes, écrit le journal, Joséphine Baker sera la 6e femme parmi les 80 grandes figures de ce monument de la nation. Le Figaro, lui, évoque le retour du Roi Lion, la comédie musicale créée à Broadway en 1997 et arrivée à Paris en 2007, elle revient au théâtre Mogador, un roi lion enchanteur, écrit Nathalie Simon dans le journal, grâce au savoir-faire de deux cadors de la scène, Dominique Trottin, le chef d'orchestre qui reprend les musiques africaines tribales d'Elton John et de Hans Zimmer avec 10 musiciens sur scène, et puis Julie Taymor, la metteuse en scène, un spectacle où on en a plein les yeux, écrit Le Parisien. Dans l'actualité également, la disparition de Jacques Boisgallet, le compositeur français avec 94 ans. Il avait aussi été musicien metteur en ondes ici à Radio France, responsable des retransmissions des deux orchestres. Jacques Boisgallet avait notamment écrit plusieurs œuvres de musique de chambre. Il avait remporté le Grand Prix musical de la ville de Paris en 1971 avec sa deuxième symphonie. Enfin, les Corégies d'Orange ont dévoilé hier soir le programme de leur édition 2022. On retiendra une nuit italienne avec le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan dirigé par Riccardo Chailly dans des airs de Verdi. Une Missa Solemnis de Beethoven avec Patricia Petitbon, Marie-Nicole Lemieux, Cyril Dubois et Nicolas Courjal. Un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung Woon Chung avec Nicolas Angelich au piano. Et puis côté lyrique, 2 productions d'opéra à Orange en 2022. La Gioconda de Ponchielli, mise en scène par Jean-Louis Grinda. Et puis l'Élixir d'amour de Donizetti, mise en scène par Adriano Sinivia. Giacomo Sacripanti sera à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et dans les rôles principaux, René Barbera, Pretty Yende ou encore Erwin Schrott, que je vous propose d'écouter ce matin dans cet air de Verdi, Attila.
Mentre gonfiarsi l'anima parea dinanzi a Roma, ma parve immane un veglio che m'afferrò la chioma. Il senso è mio travolto, la mano gelo sul brando, e mi sorrise in volto e poi mi fe comando. Arre, 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 arre
Un air d'Attila de Verdi avec la voix d'Erwin Schrott, l'orchestre symphonique de la radio autrichienne dirigé par Daniele Rostioni. Vous écoutez France Musique, il est 7h50. Les mardis, mais oui, on est mardi, c'est l'heure de retrouver Aliette Delalleux. Bonjour Aliette.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Au programme de votre chronique ce matin, signes astrologiques et opéras radiophoniques avec une compositrice. Cette compositrice, c'est Claude Arieux.
Qui s'appelle Louise-Marie Simon de son vrai nom. Et elle a composé la musique d'une œuvre qui a révolutionné la radio. Nous sommes en 1946, juste après la Libération. Et sur les ondes est diffusée pour la première fois la coquille à planète.
Le studio d'essai de la radiodiffusion française présente La coquille à planète, suite fantastique pour une voix et 12 monstres par Pierre Schaeffer. Musique de Claude Arieux. Premier épisode, Le Zodiac.
Créée en pleine guerre dans les années 43-44, La coquille à planète devient le premier opéra radiophonique expérimental.
C'est quelque chose, l'opéra radiophonique, qu'on ne connaît plus vraiment aujourd'hui. Ça consistait en quoi ?
Eh bien, on va dire que c'est l'ancêtre de la fiction radiophonique, c'est-à-dire un récit avec des voix et des bruitages, mais où la musique et le chant prennent une place plus importante. Claude Arieux était la bonne personne pour participer au projet. Elle maîtrisait à la fois la composition, avec un premier prix reçu au Conservatoire de Paris en 1932, et la radio, univers qu'elle intègre 3 ans plus tard, en se formant au tout nouveau métier de metteuse en ondes, une personne chargée de réaliser ses fictions radiophoniques.
Sur la banquette, je m'étais assis auprès de la dépouille de mon âme, j'eus un subit malaise. Une amertume m'avait saisi aux entrailles, me tordait l'estomac. Alors, je compris de quelle ignoble manœuvre j'avais été, une fois de plus victime. Mon âme de connivence avec mon corps me trahissait, j'avais faim. L'épaisse faim m'avait empli.
Alors on doit ces nouveautés radiophoniques à Pierre Schaeffer, compositeur qui crée le studio d'essai de la RTF devenue Radio France et avec qui elle collabore régulièrement. Quand il lui propose de composer la musique de La Coquille à Planète, voici ce qu'il lui dit.
Nous allons faire une espèce de faux opéra, de faux vrai opéra. Le personnage va déambuler dans Paris après l'extinction des feux, va rentrer à l'opéra et là, il va trouver à minuit un spectacle qui ne fera aucun bruit, mais qui fera beaucoup de bruit parce qu'on fera chanter le capricorne, le scorpion, le cancer, des animaux effroyables et nous n'avons aucune raison de nous refuser quoi que ce soit.
Cette déambulation autour des signes astrologiques donne une création radiophonique de 8 heures, diffusée par épisode sur une musique de Claude Arieux. Pour elle, la composition radiophonique était un genre à part entière. Elle disait « c'est l'abnégation du compositeur en tant que purement lui-même. N'étant jamais au premier plan, la musique peut être un pivot, un prétexte. Elle doit avoir la valeur d'une couleur ou d'un bruit. Elle suggère, complète, ajoute parfois, mais ne sort jamais du décor. »
Les trois fleurs de Saint-François, le lys qui est la pureté.
On célèbre aujourd'hui l'anniversaire de Claude Arieux, une compositrice à la fois à la pointe des grands mouvements avant-gardistes musicaux, mais aussi radiophoniques. On lui doit beaucoup. Et ce qu'on entend ce matin n'est qu'une petite partie de son immense œuvre.
Aliette Delalleux, pas d'horoscope, mais des extraits de La Coquille à Planète qui nous promettent au moins de passer une bonne journée, quel que soit son signe. Claude Arieux, donc, qui avait choisi ce pseudonyme. C'est encore une compositrice qui avait choisi un pseudonyme
pour dissimuler son identité. Ouais.
Une autre. À mardi prochain, ce soir, Lucienne Renaudin-Varie est en concert à Rouen, la Chapelle Corneille, avec Félicien Bru à l'accordéon, dans un programme autour d'Astor Piazzolla. Piazzolla Story, c'est aussi un disque où la jeune trompettiste a enregistré la professeure du compositeur argentin, Mademoiselle Nadia Boulanger.
Thank you.
Lux Eterna, Nadia Boulanger, arrangée par Jérôme Ducrot avec Lucienne Rododin-Vary, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigée par Sacha Goetzel, en concert à Rouen ce soir avec Félicien Bru, la jeune trompettiste. Il est 7h57, oulala, on joue.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
On est en retard comme le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles. C'est la voix mystère gagnée ce matin, Il Transylvano, le disque de l'ensemble Prisma sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin. Vous participez, vous coordonnez la réponse à la question que voici. Quelle est notre voix mystère? Écoutez bien.
Je ne cesserai de regretter de ne pas avoir appris le piano, oui, finalement. Ça m'aurait bien aidé, ça m'aurait plu, j'aurais peut-être pu m'accompagner au piano, mais finalement j'ai préféré la guitare. Alors on m'a prêté une guitare, et ce qu'il y a de merveilleux avec la guitare, c'est que même si on en joue mal ou si on sait pas en jouer, ça se fait des sons jolis, quoi. On peut faire quand même un accompagnement qui se tient même si on n'est pas vraiment guitariste. J'ai pas fait d'étincelles, hein, j'ai pas fait de... Mais je me suis accompagné... Honnêtement, pendant quand même 20 ans, oui.
Vous avez gratté?
Non, mais j'aimais pas gratter. Moi, j'arpégeais. Quand même. On a sa fierté.
Qui est cette grande chanteuse qui était sur France Musique il y a quelques années? Votre réponse sur francemusique.fr. La réponse dans une heure.
Cueillons la pâquerette, le lys et le jasmin, au jardin d'amourette, le plus gentil jardin. Ah, ah, le plus gentil jardin, celui qui le cultive est un enfant ailé, dont ma mère craintive ne m'a jamais parlé. Non, non, jamais parlé. Ce jardinier fidèle est roi dans son séjour, et l'on dit qu'il s'appelle l'amour. Aïe, aïe, l'amour. Aïe, aïe, l'amour. Cueillons la pâquerette, c'est le jasmin, au jardin d'amourette, le plus gentil jardin.
C'était la musique de qui? C'était la musique de Francis Thaume avec les textes d'Alexandre Dumas, père, Le Jardin, Alphonse Main au piano et la voix de Kaelic Boucher qui est en concert ce soir à la Sorbonne à Paris. Il fait partie des musiciens qui interpréteront le Requiem pour la paix d'Henri Tomasi. À tout de suite.
Les Diapasons d'or 2021 sont lancés. Comme chaque année, les équipes du magazine de musique classique décernent leur Diapason d'or aux enregistrements les plus remarquables des 12 derniers mois. Baroque, symphonique, musique de chambre, opéra. Découvrez le palmarès des Diapasons d'or 2021, mercredi dans En Piste et lundi prochain dans Relax. À suivre sur France Musique et francemusique.fr.
La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel? Dès 5 mois après la dernière injection ou infection Covid pour toutes les personnes de 18 ans et plus. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Mardi 30 novembre, de la pluie ce matin près de la Manche, de la neige possible jusqu'au nord-est, du soleil près de la Méditerranée et partout ailleurs, un temps assez variable, instable, avec quelques pluies possibles sur le nord. Les températures cet après-midi, 4 à Strasbourg, 9 à Paris, 11 à Nantes, 9 à Marseille, 12 à Nice et jusqu'à 13 à Perpignan. Merci d'écouter France Musique, il est 8h, une petite minute. pas aux pièces. Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Meneuse de revue, figure de la résistance, militante des droits civiques, elle a combattu le racisme sous toutes ses formes. Voilà ce que l'on retiendra de Joséphine Baker, qui cet après-midi fera donc son entrée au Panthéon. On entendra sa voix chanter « Me revoilà Paris ». Le chœur de l'armée française interprétera quant à lui le chant des partisans, un hommage à ce fragment de vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un épisode dont les détails sont finalement peu connus. Joséphine Baker a pourtant joué un rôle important en tant qu'agent de renseignement pour le compte des services du contre-espionnage français juste avant la débâcle. C'est ce que souligne au micro de Benoît Grossin le chercheur Géraud Létang. Il travaille au château de Vincennes pour le service historique de la Défense.
Parallèlement à son activité d'artiste du music-hall, on peut le voir dans ses documents que dès 1939, elle fournit des renseignements sur l'éventualité de l'entrée en guerre de l'Italie, sur la politique du Japon, sur les agents allemands à Paris. Ensuite, entre 1941 et 1943, elle transporte des messages secrets et continue à fournir des renseignements très utiles aux services alliés de l'Intelligence Service. Sa célébrité lui permet de se déplacer. On est dans une France où il y a des frontières, où il y a des contrôles en raison de l'occupation, des zones de démarcation. On est dans une Europe où les frontières sont extrêmement contrôlées. Beaucoup de témoignages mentionnent les messages cryptés à l'encre sympathique sur les partitions, le fait que dans ses costumes de scène, on cache les messages. Mais en réalité, ces dossiers ne disent pas tout. Une partie échappe largement, mais je dirais parce que Joséphine Baker a bien fait son travail. Mais on voit après, on comprend, on déduit en tant qu'historien les risques qu'elle a pris. Joséphine Baker sait qu'elle contribue à la lutte aux côtés des alliés, mais elle l'accepte de ne pas savoir quels renseignements transitent par elle. Sans doute, nous ne saurons jamais quels renseignements exacts ont été donnés par Joséphine Baker, mais ce que l'on sait, c'est que Joséphine Baker, au-delà de l'anecdote, est quelqu'un qui a risqué sa vie.
À suivre à 8h10 sur France Musique, le reportage de Sophia Anastasio, l'occasion de revenir cette fois-ci sur les multiples vies de Joséphine Baker à travers un spectacle joué actuellement au Théâtre de Passy à Paris, spectacle mis en scène par Xavier Duringer. Le gouvernement ne remettra pas en cause les accords du Touquet, précision signée hier du ministre de l'Intérieur. En vigueur depuis 2004, ces accords placent la frontière britannique côté français. Gérald Darmanin a dans la foulée annoncé le doublement des effectifs de l'Office central de lutte contre l'immigration clandestine. 500 millions d'euros supplémentaires pour installer davantage de bornes électriques en France. Cette enveloppe va notamment permettre de développer une offre plus satisfaisante dans les territoires ruraux qui, pour l'instant, ont bien été les oubliés par les pouvoirs publics. L'exécutif reconnaît aujourd'hui que l'objectif de 100 000 bornes ouvertes au public avant la fin de cette année, bien que cet objectif ne sera pas atteint.
France Musique 8h04, un premier cas de variant Omicron vient d'être identifié sur l'île de La Réunion, ce qui n'est pas très étonnant compte tenu de la proximité de ce département d'outre-mer avec les pays d'Afrique australe, Olivier Denré.
Mais si pour l'instant les autorités françaises se refusent à durcir les règles en vigueur, hormis bien sûr la fermeture des frontières aériennes pour les voyageurs en provenance de cette zone, ce n'est pas le cas de l'Allemagne où la pandémie s'emballe avec un taux d'incidence jamais vu outre-Rhin, une situation qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le nouveau variant qui inquiète en ce moment la planète. À Berlin, Nathalie Versieux, les autorités pourraient bien annoncer d'ici ce soir de nouvelles restrictions.
On voit de plus en plus clairement que les événements de masse et de loisirs, comme les clubs, les bars, les discothèques, sont responsables de nouveaux cas qui se répandent très vite. Tout cela devrait vraiment être fermé.
Les appels au confinement, comme celui du virologue social-démocrate Karl Lauterbach, se multiplient depuis des jours. Mais la nouvelle coalition semble pour l'heure incapable de se mettre d'accord sur un nouveau confinement. La mesure rejetée par les libéraux du FDP n'est pourtant plus tabou pour les Verts, comme le laisse entendre le futur ministre de l'économie Robert Habeck.
Parmi les mesures que nous devons envisager, je vois la possibilité d'avancer les vacances scolaires de Noël. Et il nous faut maintenant lancer les préparatifs d'une obligation vaccinale.
La journée s'annonce cruciale pour la lutte contre la pandémie. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe doit se prononcer ce matin sur la constitutionnalité des confinements passés. Et dans l'après-midi, Angela Merkel retrouve une nouvelle fois les chefs des régions pour envisager de nouvelles restrictions.
Enfin, un climat plutôt positif malgré la persistance de nombreux obstacles. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris Hier à Vienne, en Autriche, les Européens sont plutôt satisfaits de la teneur des discussions. Satisfaction d'ailleurs partagée par les représentants de Téhéran. Ils réclament toujours la levée de toutes les sanctions internationales. 8 heures passées de 6 minutes, Musique Matin, deuxième partie. L'occasion, entre autres Jean-Baptiste Urbain, donc de revenir sur le parcours de Joséphine Baker, qui cet après-midi aura droit à une place au Panthéon, aux côtés de l'écrivain Maurice Genevoix, rentré lui l'année dernière.
C'était le journal d'Olivier Denré que l'on retrouve demain dès 7h. Bonne journée.
Bonne journée, à demain.
Musique Matin, deuxième heure. Le bonheur est une bulle qui éclate quand on la touche, a écrit Balzac sur son nouvel album Bubbles d'Anna Tchokarlier. Fait s'envoler plusieurs bulles musicales, des rencontres avec des amis. Il y a la pianiste Anne Kefelec, le violoniste Gilles Appap, mais aussi les chanteuses Juliette Armanet et Philippe Catherine. Un disque de fête à un mois de Noël. Champagne d'Anna Tchokarlier sera notre invitée à 8h30. Et puis quand Pink Floyd décide d'abattre le mur entre le rock et l'opéra, il y a 42 ans, jour pour jour, sortait The Wall, sans doute l'album le plus original et le plus ambitieux du groupe britannique. Séquence Nostalgie avec Max Dosolm dans Maxi Classique, ce sera dans une douzaine de minutes.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Le jour où un prétendant croit pouvoir incarner la République en lui tendant le miroir le moins flatteur, c'est une toute autre nation qui est célébrée aujourd'hui. Nation incarnée par une femme française, noire, résistante, émigrée, qui a aimé des hommes et qui a aimé des femmes et qui a adopté 12 enfants dont chacun s'est vu attribuer une religion en fonction de son pays de naissance. Aujourd'hui, c'est aussi le spectacle vivant qui fait son entrée parmi les grandes figures du pays, une chanteuse et danseuse entre Jean Moulin, André Malraux et Simone Veil. Un mot d'amour, c'est incolore, mais un baiser, c'est éloquent.
Embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incolore, mais un baiser, c'est éloquent. Ne me fais pas de longs poèmes, ne parle pas de tes émois. Pour me prouver combien tu m'aimes, de temps en temps, embrasse-moi. Dans tes bras, prends ma vie de car demain tu me quittes, tu dois m'indemniser. Il faut bien que je fasse provision de baiser. 4 jours, c'est bien long, sois prudent chérie. Surtout rappelle-toi si tu m'écris. Ne me dis pas que tu m'adores, mais pense à moi de temps en temps. Car bien de fois le cœur ignore ce que la main écrit souvent. Ne jure pas d'être fidèle, je veux le croire malgré toi. Mais si les filles là-bas sont belles, de temps en temps, dis pense-moi. Du 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 do 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 do. Ne laisse pas mourir nos rêves.
l'une de ses plus belles, peut-être la plus belle, de temps en temps, une chanson de Joséphine Baker, ou Baker, comme elle préférait qu'on le dise. Il est 8h12.
Musique Matin, le reportage.
Et elle a vécu plusieurs vies, Joséphine Baker, on y revient donc dans le reportage, des vies qui sont célébrées en ce moment sur scène au Théâtre de Passy à Paris, avec le spectacle Joséphine B, signé Xavier Duringer. Sophia Anastasio a assisté à ce spectacle pour nous.
Alors, ça va être à partir de ce fauteuil-là,
oui.
Et tout le monde sera à côté.
C'est accompagné par la musique de J'ai deux amours que le public s'installe dans la salle du Théâtre de Passy. Le spectacle Joséphine B va commencer et la salle est pleine ce samedi soir. Une exception dans le paysage culturel plutôt en berne depuis ce début d'année. Ce succès réjouit évidemment Xavier Duringer, le metteur en scène.
Quand j'ai commencé à écrire Joséphine Baker, il n'était pas question qu'elle rentre au Panthéon. Je tiens à le souligner, j'ai pas fait ce spectacle parce que Joséphine Baker était panthéonisée. J'ai écrit une forme de biopic qui essaye de lui rendre grâce et hommage tous les soirs avec du chant, de la danse et du théâtre, et de raconter une partie de sa vie qu'on connaît pas beaucoup, c'est sa petite enfance, son adolescence, comment elle a réussi en fait à s'infiltrer en fait à chaque fois dans des troupes et comment elle a eu cette chance extraordinaire un jour d'être prise pour aller jouer à Paris.
Mes parents étaient des saltimbanques. Ils sautaient sur les bancs. Ils avaient créé ensemble une sorte de cabaret itinérant, une sorte de numéro de danse et de claquettes à formater.
C'est après sa rencontre avec la comédienne Clarisse Kaplan que Xavier Duringer a décidé d'écrire le spectacle, frappé par la ressemblance de l'actrice avec Joséphine Baker, aussi bien dans ses traits que dans sa façon de se mouvoir. Une ressemblance dont Clarisse Kaplan avait déjà entendu parler.
Quand j'étais petite, ma grand-mère me disait que je lui ressemblais énormément, que j'avais l'effet mimique. Bon, après, plus personne n'avait reparlé de Joséphine Baker. Donc, quand Xavier m'a dit que je lui faisais penser à elle et qu'on avait quelque chose à faire, j'ai eu cette petite voix de ma grand-mère et je me suis dit, bon, là, ça veut dire qu'il faut le faire. Ça, c'est un très bon projet.
Sur scène, aux côtés du comédien Thomas Armand, Clarisse Kaplan joue, danse, chante, gonfle ses joues à la façon de Joséphine Baker. Elle nous a dit être particulièrement émue par son entrée au Panthéon, tout comme Xavier Duringer.
C'est un symbole dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est magnifique, c'est la première femme de couleur qui rentre au Panthéon. C'est tout un symbole. Et symbole arrive à point. Je ne sais pas si les gens arriveront à le voir, mais cette femme, elle a choisi la France, elle a été une grande résistante, elle s'est battue, mais ses combats étaient multiples. Par exemple, elle a été aussi rencontrée Fidel Castro à Cuba, mais aussi bien... Ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'elle a traversé son temps et elle a traversé en fait toutes les idéologies et elle a choisi son camp, celle de la France.
De ses premiers pas de danse à la fameuse danse sauvage, Joséphine B nous donne donc les clés pour comprendre le succès de celle qui est devenue une icône aujourd'hui. Premier spectacle programmé dans le nouveau théâtre de Passy, il doit être joué jusqu'au 2 janvier et risque d'être prolongé.
Reportage signé Sophia Anastasio pour France Musique. Et Joséphine Baker, l'étoile noire de Paris, c'est aussi une émission Tour de chant, Martin Peigné en 4 parties, tous les dimanches. À midi et demi.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage si l'on peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, paradis. Ce que j'en dis, on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du Nord ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris.
Madame, c'est votre robe si jolie.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde. Quand c'est le mieux du monde, coiffé avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris.
Joséphine Baker en 1949, cette chanson de Georges Tabet et Augustin Lara. Joséphine Baker, pour toujours, sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Il est 8h18. Henry Purcell, l'ouverture de Didon est née avec Emmanuel Haïm à la tête de son ensemble, le concert d'Astrée. Didon est née avec Emmanuel Haïm à la direction et la mise en scène de Franck Chartier et la compagnie Peeping Tom. C'est à Lille, à l'Opéra de Lille, à partir de vendredi et jusqu'au 10 décembre. Vous écoutez France Musique, il est 8h20, c'est l'heure de Maxi Classique avec Max Dozolm. Bonjour Max.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Le 30 novembre 1979, il y a 42 ans déjà donc exactement, sortait l'album le plus original et le plus ambitieux de Pink Floyd.
Celui qui nous propose en tout cas d'abattre les frontières et les murs entre le rock et l'opéra, j'ai bien sûr nommé The Wall.
Oh, for fuck's sake, stop letting off fireworks and shouting and screaming. I'm trying to sing a song.
Le concert du 6 juillet 1977 est celui de trop pour Pink Floyd. Drogués et alcoolisés, les musiciens n'arrivent pas à jouer ensemble. Ils sont gênés par les cris de près de 80 000 personnes venues les voir au stade olympique de Montréal. Soudain, à bout de nerfs, Roger Waters crache au visage d'un spectateur un peu trop bruyant à son goût. Choqué par son geste, le bassiste des Floyd veut dresser un mur entre le public et la scène, mettre des mots et des notes sur ce malaise, les prémices de The Wall. The Wall est donc une œuvre cathartique qui commence par le titre In the Flesh, du nom de leur tournée catastrophique qui vient de s'achever. Il s'agit du projet le plus ambitieux des Floyd, une superproduction qui consiste en un double album, mais aussi un film expérimental réalisé par Alan Parker et une série de concerts spectaculaires. C'est surtout le seul album des Pink Floyd que l'on peut considérer comme un véritable opéra rock, c'est-à-dire un concept album avec une histoire où interviennent plusieurs personnages, notamment un chœur d'enfants amateurs et rebelles. De faire intervenir un chœur d'adolescents dans la chanson phare de The Wall est celle de Bob Ezrin. Avec le chef d'orchestre et arrangeur Michael Kamen, auteur des bandes originales de X-Men ou de L'Arme Fatale, c'est à lui que l'on doit la réussite et la touche classique de l'album. Par exemple, si Roger Waters est bel et bien le compositeur du mélancolique Is There Anybody Out There, le choix de faire appel à un guitariste classique nommé Joe DiBlasi pour jouer ses arpèges mélancoliques est bel et bien celui de Bob Ezrin. De nombreux musiciens classiques ont participé à The Wall. Les parties orchestrales écrites par Michael Kamen sont jouées tour à tour par des ensembles prestigieux, comme le New York Philharmonic et le chœur du New York City Opera, qui accompagnent Roger Waters dans ce passage très rachmaninovien. La partition la plus originale et impressionnante de The Wall est en grande partie orchestrale. Il s'agit d'un procès où Roger Waters, méconnaissable, joue plusieurs rôles dans une scène aux allures de comédie musicale grinçante. Ça sonne comme du Kurt Weill, et pourtant, c'est bel et bien du Pink Floyd.
C'était Max Dozone, Maxi Classique. Vous le retrouvez, vous le podcastez, vous vous abonnez sur l'application Radio France. Et si vous alliez au concert ce soir à 20h à la Maison de la Radio et de la Musique, un concert avec la maîtrise de Radio France dirigée par Sophie Janin et Carole Mosakowski à l'orgue. Il est résident ici à la Maison de la Radio et de la Musique. Il vient de sortir un disque Rivage consacré notamment à la chanson Sébastien Bach. Thank you. La gigue de la cinquième suite française de Jean-Sébastien Bach, Carole Mossakowski, à l'orgue, sur l'orgue qui est à quoi une trentaine de mètres de ce studio, dans l'auditorium de la maison de la radio et de la musique. Il sera en concert ce soir avec la maîtrise de Radio France, Carole Mossakowski, et vous découvrirez certainement prochainement d'autres extraits de ce très beau disque dans l'émission En Piste à 9h, émission présentée par Rodolphe Bruno-Boulmier et Émilie Munera. Bonjour Émilie, tiens, vous êtes là.
Bonjour, mais oui, ça tombe bien. Vous parlez de moi, je suis déjà là, vous vous rendez compte.
C'est le hasard.
Alors, c'est une musicienne que vous connaissez bien qui ouvre cette émission puisque vous l'avez reçue la semaine dernière. Souvenez-vous, allez, c'est laquelle?
C'est la nouvelle star, oui, c'est Jeannine Debic.
Vous êtes trop fort, Jeannine Debic.
De Trinidad et Tobago.
Ouvre cette émission avec son disque Miroir, dont
qui
vous avez
dans la Chine.
Longuement parlé. Oui, absolument. Et je le comprends, puisque le disque est absolument superbe. En tout cas, on va en écouter de larges extraits. Et puis par la suite, il y aura le disque aussi d'Adrien Lamarca. C'est la bohème. Alors, entre chansons, entre musique de cinéma ou musique classique, il y aura tout ça dans En Piste à 9h.
Adrien Lamarca qui sera d'ailleurs avec notre invité ce week-end, Salgavo, pour le festival
La Dolce Volta.
Tout à l'heure, 9h.
Tout à l'heure.
Il est 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Elle s'amuse sur son nouveau disque. Dana Ciocarli est notre invitée. Bubbles, ça veut dire bulle en français. Il est sorti également chez la Dolce Volta. Un disque où on retrouve pas mal d'amis, des rencontres. Alors, il y a des rencontres classiques. Anne Kefelec, Gilles Pape, Astrid Cyranocian, mais aussi Philippe Catherine et Julie Depardieu, Juliette Armanet, oui, celle qui a sorti un disque qu'on entend sur plein de radios depuis quelques jours, Isabelle Georges aussi, et Dana Ciocarli est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Sur la pochette, on vous devine déguisé, soufflant des bulles comme des enfants. Vous êtes plutôt bulle de savon ou bulle de champagne?
Je suis toutes sortes de bulles, toutes bulles confondues, bulles autour du monde, unissez-vous.
Pourquoi ces bulles de savon? Pourquoi ces bulles d'ailleurs? Bubbles.
Parce que c'est la fête. On aurait voulu, avec la Dolce Volta, appeler ce disque champagne, mais nous n'avons pas eu le droit. Donc, ce qui nous semblait le plus proche de l'univers du champagne, c'était Bubbles, donc bulle internationale. Et donc c'est l'idée de sortir de la grisaille, de ces temps sombres que nous avons vécu et peut-être que nous attendent encore un petit peu, mais de s'évader dans un univers ludique, amical, festif, musical, chaleureux et peut-être régressif avec les bulles.
Eh ben c'est parfait en novembre, un disque qui fait du bien parce que c'est vrai que la grisaille, on est en plein dedans. Ludique, vous avez dit, voire régressif. Bubble, on peut penser aussi à Bubblegum. Il y a un côté aussi enfantin sur ce disque. Et chez vous, Dana Ciocarli?
Probablement. Je dois avouer que, en fait, sur la pochette, donc que vous voyez, la photo qu'a prise Bernard Martinet, le photographe, il m'a demandé d'avoir des lunettes rondes et j'ai piqué les lunettes de mon fils. C'est des lunettes disco qu'il avait pour sa fête de baccalauréat. Donc, par exemple, voilà, régressive.
Une grande enfant, Dana Ciocarli, est notre invitée. Et vous voici dans le coin des enfants, Children's Corner. Thank you. un morceau de gâteau, Gollywog's Cakewalk, extrait des Children's Corner de Claude Debussy, d'Anna Tchokarli. Toute seule, ça ne nous a pas échappé. Ici, il y a plusieurs pièces solo sur ce disque Bubbles, qui est aussi, d'une certaine façon, on écoutera tout à l'heure de la musique roumaine, un hommage à la musique française et roumaine, votre pays de naissance et votre pays d'adoption.
Absolument. Un hommage aussi à la musique populaire en général, parce que c'est une de mes passions, un de mes gènes, je pense. Donc on retrouve la musique roumaine qui est donc ma Madeleine, mais aussi la musique arménienne, la musique américaine, voilà, la musique sud-américaine avec Piazzolla.
Musique folklorique.
Voilà.
Et la question des racines.
La question des racines, la question de la musique comme langage universel et par la musique populaire encore plus unie.
Cette musique française qu'on vient d'écouter, celle de Debussy, celle que vous enseignez, hein, on n'a pas encore dit, vous avez longtemps enseigné à l'École normale supérieure de musique de Paris, vous enseignez la musique de chambre au Conservatoire supérieur de Lyon. Vous l'avez d'abord apprise en Roumanie, l'arrivée en France, ça a changé quoi dans votre rapport à la musique française de Mathieu Carly?
C'était la motivation principale d'arriver en France. On en faisait en Roumanie, mais c'était un peu périphérique, je dirais. C'était pas très 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 bien connu. Il y avait pas une notion du style ou du son, on va dire, la sonorité du piano français. Et en arrivant en France, j'ai compris ce que cela veut dire, mais aussi pas seulement la musique, c'est par capillarité toute la culture française, toute cette légèreté, cette spiritualité qui participe du son français. C'est en vivant ici que je l'ai vraiment vraiment compris, aussi avec mes professeurs Dominique Merlet, Victoria Melki, Georges Pludermacher.
Vous avez raconté toute votre vie dans les grands entretiens de France Musique qu'on peut réécouter, mais vous nous rappelez quand est-ce que vous êtes arrivée votre terre d'accueil, comme vous
Il y a longtemps, en 1992, et je suis entrée d'abord à l'école normale Alfred Cortot, à l'école normale de musique avec Madame Melki, et ensuite tout de suite après, en janvier 1993, au CNSM de Paris, dans ce que s'appelait à l'époque troisième cycle.
Il y a aussi sur ce disque la musique d'Éric Satie, celle de Francis Poulenc, cette fois avec ses amis dont on a parlé. Comment il est né ce disque? On reçoit souvent des artistes depuis quelques mois qui parlent de disques nés pendant la période sans concert, la période de confinement. Est-ce qu'on est dans ce registre-là, faire la fête, comme vous le disiez, après le moment où tout s'est arrêté?
Alors l'idée du disque est née bien avant, mais comme il y a comme j'ai beaucoup d'invités, c'était pas facile de mettre les calendriers en concordance. Ça fait au moins 2 ans que ça a germé, cette idée d'une grande fête de famille musicale, des affinités électives et aussi album intime quelque part, un peu comme un peintre qui ferait visiter aux auditeurs ou aux spectateurs, aux amateurs, son atelier. C'est un peu aussi mon atelier de travail que je dévoile là aussi.
Et album de famille, parce que ce disque, comme tous les disques de la Dolce Volta, il est avec un gros livret, un peu comme un livre, et on peut tourner les pages avec un personnage, un invité, et vous raconter à chaque fois comment vous vous êtes rencontrés. Parmi ces rencontres, il y a elle.
Retire ta main. Je ne t'aime pas, car tu l'as voulu. Tu n'es qu'une amie. Pour d'autres son fer, le creux de tes bras et ton cher baiser. Il me suffira de voir ton bonheur, il me suffira. t'es fermé, je ne t'aime pas.
Ne me demande rien, je pleure, c'est tout.
Je ne t'aime pas.
Sur France Musique aussi, on écoute Juliette Armanet qui chante ici Kurt Weill sur votre album Bubbles d'Anna Tchokarlier. Comment vous vous êtes rencontrée avec Juliette Armanet?
Par les tournées que je faisais avec Philippe Catherine. Pendant presque 2 ans, nous avons sillonné la France et même plus loin que la France dans un spectacle qui s'appelait Le Film. Et bien Juliette, c'était juste avant son premier album. Elle a fait une dizaine de dates en tant que première partie de nos spectacles. Et donc nous avons eu une grande complicité et tout de suite quelque chose de très intense. Et voilà, alors elle m'a aussi présenté son père, grand compositeur, Jean-Pierre
Armanet.
Qui
est aussi sur le disque.
Voilà.
Dont vous jouez une œuvre.
This is America and I feel like electricity. Et donc ça me semblait naturel, puisqu'on parlait de famille, de faire appel à la famille Armanet dans son entier.
Jean-Pierre Armanet, d'ailleurs, qui compose une musique qui fait penser beaucoup à la musique minimaliste américaine,
oui.
Qu'on entend peu sous la plume de compositeurs français.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de plus promouvoir sa musique. Effectivement, Jean-Pierre est aussi jazzman, donc il est très incliné naturellement vers la musique américaine, Steve Reich, Philip Glass. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un pendant de sa pièce avec une pièce de Philip Glass pour montrer un peu les styles, les courants souterrains qui peuvent exister entre la musique française d'aujourd'hui et la musique américaine.
Sur votre disque, les chansons ou les mélodies qui sont interprétées par vos invités, c'est vous qui leur avez suggéré, c'est eux qui ont choisi, comment ça s'est fait?
Alors,
là, par exemple, le Kurt Weill qu'on vient d'écouter.
Non, c'est totalement Juliette. J'ai laissé libre tous mes invités de choisir ce qui leur faisait plaisir. Est-ce qu'ils étaient inspirés pour jouer avec moi? C'est aussi à deux que ça se passe, un tandem.
Alors, il n'y a pas que des chanteurs pop sur le disque, il y a aussi des artistes classiques, la jeune et très talentueuse violoncelliste Astrid Cyranocian. Dans un instant, on écoutera le grand violoniste Gilles Appap, et puis du champagne. Vous en buvez dans le disque, il y a une photo avec Anne Kefelec, et vous racontez une histoire très étonnante qui vous est arrivée avec Anne Kefelec. C'était dans le désert en Afrique?
C'était à Tanger. Donc un port.
Donc pas vraiment le désert, mais c'est l'Afrique.
Pas loin du désert. Et parce c'est au moment où on s'est rencontrés, c'était une grande croisière musicale qui a fait le tour jusqu'aux Canaries, jusqu'au Sénégal. Nous sommes allés et voilà, on visitait ensemble la ville de Tanger. Et puis à un moment, j'étais poursuivie un assez long moment par un jeune homme qui disait être le fils de chef de pêcheurs, qui voulait absolument se marier avec moi. Et il a commencé à négocier avec des chameaux et de l'or. Et puis Anne était mon pourparlers, voilà, mon porte-parole. Et elle m'a sorti de cet embarras haut la main.
en disant que vous valiez plus de chameaux que ce qu'il proposait.
Oui.
Je le dis parce que vous la racontez dans le disque, hein, sinon je ne me permettrai pas. Dana Chocarlier, c'est un compagnon de longues années, Gilles Appap, et si aussi sur ce disque.
20 années.
Comment vous êtes, vous avez créé ce duo avec lui, avec Gilles Appap, sur ces deux décennies?
Il y a un ami commun qui nous avait proposé en l'an 2000 de jouer dans le Limousin à Champagnac-la-Rivière et en pensant qu'on allait bien s'entendre. Et effectivement, avec, hélas, de temps en temps, des éclipses, parce que Gilles est encore plus grand globe-trotteur que moi. Et en plus, il habite exactement à l'autre bout de la planète, c'est-à-dire en Californie. Donc, on ne s'est pas vu, on n'a pas joué tous les ans depuis 20 ans. Mais c'est comme si c'était un frère d'âme. Le temps n'a aucune prise sur notre relation, sur notre duo.
De la country avec Dana Chocarlier et Gilles Appap et ce Hangman's Reel qui est sur votre disque Bubbles qui vient de sortir chez la Dolce Volta et dont vous ferez une présentation de concert dans le cadre du festival de ce label Salgavo. Ce sera dimanche à 18h avec le couple Philippe Catherine, Julie Depardieu et puis Astrix Cyranocian au violoncelle pour ce concert-là.
Oui, alors, petite précision, parce que Julie vient d'être prise pour un tournage, donc elle ne sera pas là finalement dimanche, mais c'est Pascal Conté à l'accordéon qui va être avec nous, et avec Philippe et Astrig.
Julie Depardieu, que vous n'avez pas réussi à faire chanter sur le disque, mais qui lit des textes.
Oh, mais je ne voulais pas la faire chanter. je lui ai proposé un rôle très important, j'allais dire presque philosophique dans ce disque, parce que je lui ai confié des poèmes roumains. Certains traduits par moi en français et qui me sont très très chers et qui résument un peu ma vision de la vie et de la musique et de ce que c'est, j'allais dire, la ferveur, l'extase, l'intensité de la vibration de la vie.
Mais qu'elle lit en français, hein,
oui.
Sur les plages de ce disque. Vous avez été longtemps lié à l'École Normale Supérieure de Musique de Paris. Vous en avez été l'élève, vous l'avez cité, de Victor Emelki, à laquelle d'ailleurs vous rendez hommage sur le disque.
Avec le pianiste de Varsovie, de Gilbert Bécaud, qui chanté. Est lui-même un hommage à son professeur de piano.
chantée avec Isabelle Georges. Oui. Vous n'enseignez plus aujourd'hui à l'école normale?
Non. Pourquoi? Parce que là, après le décès de Madame Elki, la classe a été fermée. Mais je continue avec très très grande joie au CNSM de Lyon, et où c'est vraiment une grande famille, notre département, la musique de chambre. Je pense que c'est une atmosphère quasiment unique en France, ce département.
Vous avez accueilli d'ailleurs récemment l'un des grands géants vivant du piano, Alfred Brendel.
Oui, et qui a choisi à presque 91 ans. Et donc, il a eu le courage de venir, malgré la situation. Et il a choisi lui-même de faire, de faire des masterclass de musique de chambre, pas de piano pur. Et donc, son plus grand plaisir, c'est l'équateur à cordes. Paradoxal, mais c'est ça.
Grand interprète, comme vous, de Robert Schumann. On n'écoutera pas de Schumann aujourd'hui. Vous en avez enregistré une célèbre intégrale d'Annacio Carli. Est-ce que parfois, ça vous a un peu collé à la peau quand on se lance dans une intégrale? On a une étiquette qui est collée ensuite pendant des années dont il faut se débarrasser.
De Schumann, je ne m'aurais jamais me débarrasser. Je accepte à vie le tatouage Robert Schumann. Mais il y a d'autres intégrales qui peuvent arriver. Et l'une n'exclut pas l'autre. On n'est pas à l'abri d'une intégrale de concerto de Mozart bientôt. Donc, non, je revendique.
Donc ça, c'est une annonce que vous nous faites, c'est quelque chose qui est prévu.
Oui, ça ne va pas être tout de suite, mais c'est...
Ça prend un certain temps, normalement,
voilà,
27 concertos.
Ça commence à être dans le four.
Donc, dans le four de Daniel Chocarlier, des concertos de Mozart à venir, quelques bulles de champagne et de la musique roumaine. Vous aviez déjà enregistré la musique d'Enesco, de Constantinescu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de défendre et qu'on puisse plus entendre en France? On a un peu redécouvert Enesco ces derniers mois, semble-t-il.
Heureusement, c'est que justice, et je pense qu'on a pu se rendre compte de l'ampleur, de la stature de son talent de compositeur, parce qu'il était beaucoup plus connu comme violoniste et comme professeur. Mais oui, la musique roumaine, toujours, notamment par exemple, il y a un concerto extraordinaire qui n'est pas du tout connu, c'est celui de Paul Constantinescu, le plus grand concerto de piano de la littérature roumaine. Et Horatiu Radulescu, Violetta Dinescu, Dan Dedio, des compositeurs d'aujourd'hui qui sont extrêmement, extrêmement talentueux et que j'ai envie de défendre.
Rendez-vous dimanche pour ce concert avec Philippe Catherine, Pascal Comté, donc vous l'avez dit, Astrix Cyrano-Sian, dimanche, Salle Gaveau à Paris à 18h, et puis vous serez également le 18 décembre à Rennes, le 10 décembre à Douai, ça ce sera le concert de chaussons avec des musiciens du CNSM de Lyon, et puis le 15 janvier, Salle Corto. On se quitte d'Annacio Carli avec cette musique de Constantinescu. Ça veut dire quoi, Jok de Brogaian?
Ça veut dire danse. Jok, c'est une danse.
Jok.
C'est le jeu, mais aussi danse de Dobrodja. C'est la région...
Jok Dobrodja, j'ai très mal prononcé.
Non, c'est pas grave. Dobrodja, c'est une région la plus au sud, et devant la Turquie. Donc c'est aussi la frontière avec la Bulgarie. Et c'est donc c'est la mer Noire, tout le delta, la mer Noire, c'est la Dobrodja. C'est aussi une région donc très ensoleillée où on fait du très bon vin et la musique est assez orientale comme on peut l'entendre.
Donc un peu de soleil et encore de bon nectar avec modération. Merci Annacio Carli.
Merci Jean-Baptiste. Thank you.
Jog Dobrodja, Paul Constantinescu, la musique interprétée par Dana. Alors j'étais en train de prendre des cours de Dana Tchokurlie, comme ça. Tchokurlie. Ça vient de la gorge, comme
voilà,
ça.
Voilà, Tchokurlie, qui veut dire l'alouette, tout simplement.
Merci, l'alouette. C'était Bubbles, un disque et un concert dimanche, salle Gaveau, à 18h. Demain, notre invitée sera la directrice de la danse de l'Opéra National de Paris. Madame Aurélie Dupont sera avec nous au générique de Musique Matin. Il y avait José Bernès, Maïwenn Lejean, Flora, Sternadel, Marjolaine Portier, Kelton Bach, Pierre Matignon, Yacine Bouzard. Et la réponse, la voix mystère, il y a une heure, c'était celle d'Anne Sylvestre qui nous a quittés il y a tout juste un an. Bonjour Émilie, bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste, il a attendu 60 ans pour enregistrer les sonates et partitas de Bach, c'est Fabio Biondi. On va écouter cet enregistrement dans notre émission.
Et oui, puisqu'il a 60 ans.
Je pense, si on calcule bien. Mais il a peut-être 70 ans et il a quand même attendu 60 ans.
Tout dépend à quel moment il a commencé à décider de les enregistrer. Allez, on dit voilà. Des bêtises, à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.